Destitution du président de l'Assemblée nationale, crise institutionnelle ou exercice normal de démocratie, tel est le sujet de l'émission Patara de ce samedi 20 octobre 2018 sur Radio Ntekeluka. En effet, 97 députés ont signé une motion en destitution contre l'actuel président de l'Assemblée nationale, Abdoulkarim Ekassoua. Les députés l'accusent de manquement à ses devoirs de charge, conformément à l'article 70 de la Constitution et l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 70 de la Constitution stipule que le président de l'Assemblée peut faire l'objet de procédures de décision pour manquement au devoir de sa charge sur la demande motivée du tiers des députés. La décision n'est prononcée que si le vote recueille la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale. La plénière procède alors à l'élection d'un nouveau président dans les trois jours francs qui suivent cette destitution. Finalement, la conférence des présidents des commissions parlementaires s'est réunie vendredi. Selon les dispositions du règlement intérieur, la séance consistait tout simplement pour les 18 membres de la conférence à prendre acte du document et à le renvoyer en plénière pour le début de semaine. Seulement, et de sources bien renseignées, les discussions auraient duré plus de 2 heures de temps. Certains membres ont remis en question le caractère légal de la procédure de destitution. Au finish, au lieu du début de la semaine prochaine, ce sera donc le vendredi que la plénière sera convoquée pour prononcer ou non la déchéance d'Abdoulkarim Ekassoua du perchoir de l'Assemblée nationale. Abdoulkarim Ekassoua, lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire le 1er octobre passé, a évoqué le problème demandant à ses détracteurs de respecter la Constitution s'il s'agit de le démettre. La réaction de la société civile à cette question ne s'est pas fait attendre. Le GTSC, groupe de travail de la société civile, par le biais de son porte-parole Paul Christian Beninga, a demandé, je cite, que cette crise n'affecte pas la stabilité des institutions et la stabilité économique et sociale en Centrafrique. Question, croyez-vous à une décision prochaine de l'actuel PAN? Si oui, comment vivez-vous cet événement si rare quand même dans l'histoire de la démocratie en Centrafrique? Quels pourraient en être les enjeux? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui dans cette tranche de 50 minutes. Et c'est avec Dr Arnaud Yaliki, chercheur de mission en matière juridique du président de l'Assemblée nationale, ancien à l'université de Bangui. Dr Arnaud Yaliki, bonjour.
Bonjour Hippolyte.
Madame Chantal Touabena, membre de la coordination des femmes leaders, elle est leader de la société civile. Madame Chantal Touabena, bonjour.
Bonjour Hippolyte.
Monsieur Carlo Blagué, sociologue, observateur de la vie politique en Centrafrique. Monsieur Carlo Blagué, bonjour.
Bonjour. Bonjour Hippolyte, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ntekeluka.
Guy Rémy Yamenedi à la technique, Hippolyte Marois à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ntekeluka.
Les députés accusent M. Ekassoua de manquement à ses devoirs de charge. Je vous invite donc à écouter à propos un extrait de l'honorable Mathieu Djimbélé qui résume ici les reproches faits à ce dernier.
L'article 70 de la Constitution requiert le tiers des députés. Une demande motivée signée par le tiers des députés. Et nous sommes à 97. Nous avons donc dépassé largement le tiers et donc la procédure est respectée. Les conditions sont respectées. Vous savez que cette sixième législature est la plus décriée de toutes les législatures dans l'histoire de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine. Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de scandales. Vous avez par exemple l'affaire des kits des députés, 322 millions de francs CFA. Généralement, ces kits-là sont achetés à 25, 28, 30 millions, jamais plus. C'est un scandale grossier. Les autres motifs, vous avez par exemple l'article 60 de la Constitution qui demande à l'Assemblée nationale de donner des autorisations au gouvernement dans le cadre des contrats miniers, forestiers et autres. Le président de l'Assemblée nationale s'est débrouillé pour saisir la Cour constitutionnelle qui a donné un avis qui nous a tous étonnés, que désormais ce n'est pas l'Assemblée nationale, donc ce n'est pas la plénière, mais c'est plutôt le bureau. Et nous sommes au courant que certains de ces avis, certains de ces accords ont été monnayés 50 millions. Vous imaginez l'Assemblée nationale qui accepte la corruption. Ce n'est pas normal. Des marchés de gré à gré, beaucoup de députés sont frustrés par des gens nommés, manque de rigueur dans la gestion financière et administrative. Nous sommes l'Assemblée nationale. Notre rôle, c'est de légiférer et surtout de contrôler l'action gouvernementale. Alors, pour contrôler l'action du gouvernement, il faut donner l'exemple.
Voilà donc les motivations, de manière résumée, de cette procédure qui vise, n'est-ce pas, à destituer aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Première question à vous. Docteur Arnaud Yaliki, comment réagissez-vous à ces explications de l'honorable Timbilé?
Merci beaucoup Hippolyte. Je pense que c'est une question plus que jamais importante. Je vous remercie d'avoir pris l'initiative pour nous inviter et venir informer la population sur ce qui prévaut dans la deuxième grande institution de la République.
Je vous en prie.
Alors, par rapport à la question que vous me posez, ma réaction est comme celle de tous les Centrafricains. Mais bien avant, j'ai une première observation à faire. C'est que le député Timbilé a parlé de 97 signatures. Je vous confirme que ce n'est pas 97 signatures, c'est 95 signatures. Donc, quand on est aussi élu de la nation, les informations qu'on livre au public doivent être vraies. Ça témoigne aussi notre personnalité.
Mais peut-être qu'il le dit en connaissance de cause du moment où peut-être qu'il fait partie des initiateurs de la pétition.
Mon cher Hippolyte, j'ai la signature sur mes yeux et j'ai la pétition. C'est 95 signatures. Si je m'en vais, les débatteurs, je vous invite à me démentir.
Oui, je vois.
Donc, 95. C'est 95 signatures et non 97, comme a dit le député Timbilé. Un détail un peu important. Alors, quand je reviens sur la question que vous me posez, je me pose la question comme tous les Centrafricains. La République centrafricaine a connu une crise grave de son histoire et continue de connaître cette crise. La question que les Centrafricains se posent en ce moment, cette crise est-elle nécessaire? Quand vous faites le tour de la RCA, vous arrivez à Bria, vous voyez comment nos compatriotes vivent comme des animaux. Je suis désolé de vous dire la vérité. Quand vous arrivez à Lindao, vous voyez comment nos compatriotes souffrent. Quand vous allez dans l'arrière-pays, vous voyez comment les gens souffrent. La priorité est-elle cette crise? Les Centrafricains sont nombreux à dire que c'est une crise inutile. Est-ce que c'est une priorité? Voilà la question qui revient dans la tête de tous les Centrafricains qui se posent. C'est pour cette raison que je vais vraiment aborder cette question aujourd'hui avec beaucoup d'attention.
Bien sûr. Là, maintenant, je veux savoir, c'est vrai, vous posez le problème en termes de crise. Moi, c'était peut-être une interrogation. Est-ce que nous sommes dans une situation de crise ou bien c'est juste l'exercice normal d'une démocratie?
C'est l'exercice normal d'une démocratie, hein, parce que c'est prévu par les textes. La procédure de destitution, c'est comme pour le président de la République ou bien pour le président de l'Assemblée nationale. Seulement, la question qui mérite d'être posée est celle de savoir si, pour éviter...
C'est le bon moment de poser.
Est-ce que c'est, non seulement c'est le bon moment, mais aussi la procédure suivie doit être respectueuse des principes démocratiques, des principes prévus par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Nous allons donc revenir sur cette question, si les procédures sont respectées ou non. Et en votre qualité, n'est-ce pas, de chargé de mission en matière juridique, je crois, vous êtes bien placé pour nous en dire davantage. Alors, vous avez suivi, hein, monsieur Karl Blagué, les explications données par l'honorable Mathurin Timbilé tout à l'heure qui motivent cette initiative-là de déchéance de l'actuelle PAN. Comment vous réagissez à cela?
Merci, Hippolyte. Je pense que chaque institution est régie par des textes internes. Il y a un problème interne par rapport à l'interview de l'honorable Timbilé. Il a évoqué plein de causes purement économiques. À ce que je sache, hein, détournement d'argent et autres purement économiques. Et en vertu de l'article 110 de l'Assemblée nationale, effectivement...
De la Constitution, vous voulez dire?
De la Constitution, pardon, oui.
La Constitution,
voilà, donc il y a une motion de destitution qui a été engagée avec 95 signatures. La dynamique, hein, des fonctionnements institutionnels, c'est normal. Il ne faut pas se plaindre. Il n'y a pas de pierre à jeter sur quelqu'un. C'est une dynamique normale. Si le chef de l'État, tout comme le prédit la Constitution, autant pour le président de l'Assemblée nationale, dès qu'il y a un manquement extrêmement grave... Au niveau de l'institution, il y a des procédures de destitution. Je ne sais pas pourquoi on en fait un événement s'il n'y a pas d'événement. Maintenant, il faut demander les causes. Quelles sont les causes de la motion de destitution du président de l'Assemblée nationale? Il faut être un peu objectif. Je pense qu'il ne faut pas se perdre dans des débats passionnés et autres. Quelles sont les causes exactes? Je pense qu'au niveau de la pétition, on dit 97. Maintenant, le chargé de mission juridique du président de l'Assemblée nationale dit qu'il y a 95. Quelles sont les causes de la motivation de cette motion de destitution?
C'est ce que M. Timbilé a évoqué.
Effectivement, donc, ce sont des causes économiques. Détournement de fonds publics.
On revient là-dessus.
Il a parlé également de la mauvaise gestion de l'institution, des actions de frustration, des nominations à des postes sur la base de...
Du clientélisme
et tout cela. Ce n'est pas économique. Hein,
voilà. Donc, il n'y a pas de débat. Je pense que c'est le fonctionnement normal des institutions. Donc, les motions de censure et autres sont des procédures normales indiquées par la Constitution nationale et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Donc pour vous, il n'y a pas débat, c'est un exercice normal de la démocratie.
Tout à fait.
Merci à vous, M. Karl Blagué, Mme Chantal Toabena, au niveau de la société civile. Nous avons suivi une de vos paires à préposition pour dire que, ils prennent acte de cette procédure. Seulement, il ne faut pas que cela empiète au bon fonctionnement des institutions. Vous, quel est votre avis à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au sommet de la deuxième haute institution de la République?
Merci Hippolyte. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je me retrouve là aujourd'hui sur ce plateau, parce que je suis coordonnatrice d'une plateforme de la société civile de la place, coordonnatrice de Planète Femmes Centrafrique. Je suis également membre de la coordination des femmes leaders pour la paix. Si je me suis retrouvée aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour dire à nos auditeurs et auditrices que l'heure est grave. Et parlons des articles 70, article 60, article 12. Je ne suis pas trop dans
les articles,
dans les articles et les, tout ça pour comprendre. Ouais. Mais moi, je veux aller sur un raisonnement terre à terre.
Bien sûr, c'est la société civile.
La société civile, la base, comprenne exactement ce qui se passe. Je veux bien la constitution, le droit, ce n'est que normal. Mais mon problème, j'ai un souci. Vous savez, les élections passées sont des élections de sortie de crise. Le président de la République, les députés sont là et tout ce qui se passe dans ce pays, on sait. Et je vais saisir cette opportunité pour dire la chose suivante. Tout ce qui se trame se focalise autour de l'argent, les intérêts personnels, au détriment de la population. La situation qui prévaut en ce moment dans l'arrière-pays, où même ici, les gens vivent dans la précarité. Et tout ce qui se passe se trame à cause de l'argent, à cause de ceci. Je veux bien, c'est le droit, il faut que les gens travaillent, il faudrait que le pays soit gouverné dans la transparence et la bonne gouvernance. Mais il y a des choses qu'il faudrait qu'on essaye de voir avec la tête froide. Les tenants de la destitution de l'autre et les aboutissants, nous ne maîtrisons pas. Moi, je vis parmi les populations. On a fait le tour. Les femmes ne veulent pas de cette destitution. Les femmes veulent la paix.
Oui. Tout à l'heure, je me permets de vous interrompre. Quand vous dites que les tenants et les aboutissements de cette procédure de décision, nous ne la maîtrisons pas, vous voulez dire qu'au-delà donc des explications données ici par l'honorable Timbélé, il y aurait encore des non-dits à cela?
Je voudrais dire que les Centrafricains ont peur. Vous savez, il ne faut pas se leurrer la face. Le Centrafricain lambda a peur de la situation qui prévaut en ce moment. Nous avons peur. Voilà pourquoi, pour mon humble avis, en tant que représentant des femmes, en tant que représentant du Centrafricain lambda...
Oui, est-ce que cette peur des Centrafricains là est-elle justifiée? Si aujourd'hui, M. Mikasua quitte le perchoir, il doit nécessairement y avoir crise. Est-ce qu'une autre personnalité de la République ne peut pas occuper cette fonction et accomplir le même
mais
devoir?
Mais pourquoi pas?
Alors,
alors qu'est-ce qui explique cette peur? Mais cette peur, c'est la manière. C'est la manière. Nous sommes en train d'amorcer le processus de la réconciliation nationale. Je vais vous dire quelque chose. Tous les gens qui se retrouvent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, normalement, si c'est dans un état normal, il y a des gens qui sont des députés à l'Assemblée qui représentent le peuple, qui ne devraient pas se retrouver dans cette institution.
Ça, oui, c'est...
Vous êtes d'accord avec
je
moi?
Je suis d'accord avec vous. Parce on a appris qu'il y a même des reprises de justice dans l'équipe. Il y a des...
Si on doit faire une enquête de moralité pour voir quel genre de personnes représente la population centrafricaine au niveau de l'Assemblée, je pense que l'Assemblée nationale va s'écrouler.
Merci
entièrement.
Merci à vous, Madame Chanta Toibena. Oui, je vois que Dr Yalik voudrait bien rebondir, n'est-ce pas, sur cet élément
non,
de peur
effectivement.
Cet événement-là en train de susciter dans la tête des Centrafricains.
Non, en fait, je l'ai souligné ici et je vais vraiment le répéter, c'est que c'est un exercice de la démocratie. Seulement, c'est vraiment important que cette procédure, pour qu'elle mérite constitutionnellement son nom, il faut que les dispositions prévues par l'article 70 de la Constitution et reprécisé à l'article 12 du règlement intérieur soit respecté. C'est vraiment le premier point que j'aimerais aborder. Bon.
Oui, justement.
En lien avec la deuxième question.
Oui,
que
j'ai une question là-dessus, mais d'abord, avant de revenir, n'est-ce pas, sur le respect ou non de la procédure, je vois M. Carlo Blaguet qui voudrait justement réagir concernant tout ce que cette situation est en train de créer. Là, aujourd'hui, on voit que la République centrafricaine s'achemine déjà vers la déchéance du président de la deuxième institution la plus importante du pays. Comment vous
vous vivez cela en écoutant Mme Toabenance, que la peur monte, mais est-ce que vous le vivez sereinement?
Non, en tant que sociologue, je le vis sereinement. Mais pourquoi on associe la probable destitution du président de l'Assemblée nationale à une guerre civile ou à, une remontée de la violence? Non, donc ça signifie qu'il est à la tête de certains mouvements hostiles au processus de réconciliation. Non, je pense qu'on associe la destitution du PAN à des hostilités. Je pense qu'il va falloir extrapoler tout ça. Il faut changer de paradigme. D'après moi, je me dis, c'est un problème interne. J'ai suivi l'interview du président de la République quand il était à Erevan, en Arménie, lors du dernier sommet de l'Assemblée de la francophonie.
Oui.
La dernière question, monsieur le président de la République, est-ce que vous voulez destituer le président de l'Assemblée nationale? Il a dit non. Le chef de l'État a dit non. Il dit que c'est un problème interne. Il y a un problème interne à l'Assemblée nationale. Oui, et je pense qu'il y a une dynamique démocratique. Il ne faudra pas justement tergiverser et orienter ce débat démocratique que j'aime bien. Il faudrait que ça aille jusqu'au fond, ça aille jusqu'au bout, parce qu'il y a le fond, il y a la forme. Donc, j'aimerais bien que ce débat aboutisse, mais j'ai écouté.
Il va aboutir.
Voilà, le débat va aboutir, Hippolyte, effectivement. Donc, il faut s'inscrire dans une dynamique démocratique, mais il faudrait éviter d'associer la destitution du président de l'Assemblée nationale à une remontée de tension ou de crise.
Il n'en est aucunement question, selon vous. Hein. Alors, docteur Yaliki, venons-en à cette question de droit. Est-ce que vous pensez que le droit est respecté dans la démarche menée jusque-là?
Merci beaucoup. J'attends impatiemment cette question.
Je le vois.
La problématique à laquelle le droit doit apporter une réponse est celle de savoir si la procédure ou bien les causes de décision évoquées dans cette pétition correspondent à celles prévues à l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si vous me permettez, j'ai les dispositions. Je pense que c'est la base même.
Justement.
C'est l'acte de naissance même de cette discussion, si vous me permettez.
Allez-y, s'il vous plaît.
Article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale peut faire l'objet de procédures de destitution pour manquement au devoir de sa charge sur demande d'un tiers des députés, sans considérer comme manquement au devoir de sa charge, dont il y a trois manquements. Un, le fait pour le président de l'Assemblée nationale de s'opposer de quelque manière que ce soit à ce que le bureau de l'Assemblée nationale rende compte aux députés de ses activités et de sa gestion conformément à l'article 30 de la présente loi organique, c'est-à-dire le règlement intérieur. Deuxième manquement, la rétention délibérée du rapport d'une commission spéciale ou ad hoc à l'Assemblée nationale. Troisième cas de figure, la non-transmission de, d'une part, la résolution de mise en accusation du président de la République au procureur général près la Haute Cour de justice. Deuxième cas de figure, lorsqu'il y a rétention de la décision de mise en accusation des députés conformément aux dispositions de l'article 123 de la Constitution. Alors, au regard de ces dispositions, est-ce qu'une seule fois, le président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'une seule fois, depuis 2016 qu'il est au pouvoir, a refusé de transférer à la Haute Cour de justice la mise en accusation du président de la République? Non. Est-ce qu'une seule fois, le président de l'Assemblée nationale a fait rétention délibérée du rapport ad hoc d'une commission spéciale ou commission ad hoc de l'Assemblée nationale? Non. Et sur cette question, j'aimerais vous dire ceci, c'est qu'il y a seulement deux cas où, si on fait la rétention délibérée d'un rapport, ça pourra constituer un manquement au sens de l'article 12. Deux cas seulement. Si c'est un rapport d'une commission ad hoc ou bien si c'est un rapport d'une commission spéciale. Jusque-là, il n'y a aucunement un rapport dans ce sens. Troisième cas de figure que j'ai montré tout à l'heure. Jusque-là, on n'a pas mis en cause un député et que le président de l'Assemblée nationale refuse de transférer cette mise en cause à l'autorité compétente. Donc voilà ces dispositions. Et maintenant, si on revient sur cette question de fond, parce que nous sommes déjà dans le fond, on revient sur cette question. Vous avez dit, il y a une question économique, mais aussi il y a d'autres questions. Je prends le volet économique. Le président de l'Assemblée nationale a demandé à la Cour des comptes d'aller faire investigation sur sa gestion, parce que la législature actuelle, la sixième législature, et la Cour des comptes a été installée dans les locaux de l'Assemblée nationale, est en train de travailler et va rendre une conclusion. En fonction de cette conclusion, la Cour des comptes peut saisir directement le procureur de la République. Je nous pose une question. Pourquoi vouloir destituer impérativement et rapidement le président de l'Assemblée nationale avant cette procédure? C'est une question que je pose. Pourquoi? Ça, c'est le volet économique. Les autres volets, lorsqu'on dit nomination, ça et là, je vous dis, on est en matière de droit. Et le droit, c'est une science, comme toutes les autres. C'est que le pouvoir de nomination du président de l'Assemblée nationale rentre dans ce qu'on appelle en droit les actes du Parlement. Ça veut dire que ce sont des actes qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du président de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Et sur ce, la Cour constitutionnelle a rendu un avis sur cette question. Elle a rendu un avis numéro 07/CC/18 du 19 septembre 2018. Dans cet avis, la Cour va dire ceci, que la décision de nomination des membres du cabinet du président de l'Assemblée nationale est un pouvoir propre du président. Il nomme et il révoque librement. Si on posait cette question à n'importe quelle cour constitutionnelle de n'importe quel pays, elle va rendre la même décision. Il n'y a rien de nouveau. Et donc, pour ça, nous sommes juristes, nous en sommes fiers. Il y a deux raisonnements sur le point du droit. Premier raisonnement, qu'est-ce qu'un cabinet ? Ce raisonnement concerne aussi le cabinet du président de la République ou n'importe quel cabinet. Le cabinet est un organe restreint qui est composé de collaborateurs choisis par le président qui ont pour mission de le conseiller et de l'assister dans la réalisation de l'ensemble de ses missions. C'est la définition des cabinets qui justifie le premier raisonnement. Deuxième raisonnement, c'est que la science administrative centrafricaine n'applique pas ce qu'on appelle le système des dépouilles. C'est quoi le système de dépouille? C'est un procédé permettant de renvoyer un nombre important de fonctionnaires et de les remplacer par d'autres qui sont politiquement des proches, on n'en pas n'importe qui. C'est-à-dire l'existence d'un cabinet qui s'explique par la nécessité pour le chef d'une institution, qui peut être président de la République ou un président de l'Assemblée nationale, de pouvoir compter sur une équipe dévouée qu'il a lui-même choisie. Donc, ces deux arguments, et puis ajoutés à l'avis de la Cour constitutionnelle, nous montrent que vraiment, alors, c'est un faux débat.
Alors, vous pensez que c'est suffisant pour l'actuel président de l'Assemblée nationale au regard des argumentaires fournis par les initiateurs de cette procédure de destitution? C'est une raison suffisante pour le PAN, voilà, de faire, de défaire, de nommer, d'enlever au fur et à mesure que l'institution fonctionne? Vous pensez que ce n'est pas une raison suffisante de frustration comme cela a été relevé par l'honorable Djimbili?
Ça peut être une raison de frustration, mais je vais vous dire une chose. Faisons une comparaison entre la 6e législature et la période de transition pendant le Conseil national de transition. Je pense que le président Karim Mekassoua n'a pas responsabilité autant des gens. Et puis la question reviendra sur certains cas d'intégration, ainsi de suite, qui ont eu lieu. Donc si on essaie de raisonner à cette manière, je pense qu'on incriminerait plus le Conseil national de transition que la 6e législature.
Alors vous souhaitez que Mekassoua reste à ce poste?
Non, ce n'est pas que je défends une personne. C'est-à-dire, au-delà de Mekassoua, il y a une institution. Si en respectant Karim Mekassoua, on respecte l'Assemblée nationale, en respectant Faustin Archange Touadéra, on respecte la présidence de la République, qui est une institution républicaine. Il faut que ça soit vraiment clair. On ne défend pas une personne. Monsieur Karim Mekassoua, si la procédure de sa destitution est régulière, il va se retirer. On est en démocratie. Mais si la procédure de destitution de Karim Mekassoua n'est pas régulière, c'est un autre problème.
Merci à vous, docteur Arnaud Yaliki, monsieur Karl Blagué. D'aucuns disent que cette procédure en cours a pour but seulement d'assouvir les intérêts d'une catégorie de personnes au sein du bureau de l'Assemblée nationale ou encore au sein de l'exécutif. Partagez-vous cet avis?
Hippolyte, non. D'abord, je ne suis pas membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale, ni membre du cabinet du président de la République.
Je l'entends.
Ouais, je n'ai aucun intérêt. Je ne peux pas savoir quel intérêt, justement, cette procédure doit, justement, assouvir. Mais de ma vue de sociologue, je pense que c'est une guerre de personnes. Ça n'a rien à voir avec une guerre d'institutions. C'est une guerre de personnes. Et je vais encore me référer à l'interview accordée au président de la République à Erevan, en Arménie, lors du dernier sommet de la francophonie. Le président Faustin Archange Touadéra dit « C'est une crise interne à l'Assemblée nationale ». De deux, la dernière question qu'on lui a posée, « Vous voulez destituer le président de l'Assemblée nationale ?» Il a dit non, non. Donc je pense que d'abord, c'est une crise interne, c'est une querelle d'hommes. Et c'est franchement dégueulasse, Hippolyte. Ça...
Querelle d'hommes, c'est-à-dire des personnalités internes,
oui,
à l'Assemblée nationale,
bien sûr,
qui
interne,
se contre-attaquent.
D'intérêt, des guerres de personnes. Voilà. Ce ne sont pas des guerres d'institutions. Il faut que ce soit clair. Ce sont des guerres internes, ce sont des guerres de personnes.
Alors, comment régler ce problème du moment où c'est une question d'homme à homme désormais?
Ok.
Parce que là, on sent que c'est la tête de l'institution qui est en train de. Voilà.
L'institution qui représente le peuple. Représente le peuple. Mais c'est vraiment faire preuve de bassesse. Je pense qu'il faudrait que l'Assemblée nationale prenne de la hauteur. Comme l'a dit le chargé de mission juridique, qui est mieux placé que moi, comme il est chargé de mission juridique au cabinet
du président de l'Assemblée nationale, il a dit, mais il y a des textes qui régulent le fonctionnement des institutions, notamment le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a des textes, bon, justement, si la motion de destitution, justement, est conforme au texte, il n'y a pas de problème. Abdulkarim Mekassoua n'est qu'un homme. Les hommes se changent, mais les institutions restent. Quelqu'un d'autre pourra, justement, le remplacer. Mais il ne faudrait pas associer sa révocation ou sa destitution à un soulèvement politique ou politico-militaire. Là, je refuse, hein, en tant que sociologue.
Oui, bien sûr, c'est votre position, nous la respectons. Voilà. Alors, sur la question, justement, Madame Chantal Tobina, vous êtes proche du peuple en tant que société civile, vous écoutez tout le monde. Est-ce que c'est aussi le sentiment qui se dégage du bas peuple, que toute cette bataille-là, c'est pour des intérêts égocentriques?
Je suis d'accord finalement avec
Monsieur Karl Blaguet.
Monsieur Karl Blaguet, c'est pas une guerre des institutions ou quoi que ce soit, mais c'est une guerre de personnes. C'est des intérêts égoïstes que les gens. Vous savez, nous sommes à Bangui, tout se sait. On ne va pas percer l'abcès comme ça pour éclabousser les gens.
Pourquoi pas?
Mais, oh, je veux bien, mais allons-y pas à pas. Mais je vais te dire la chose suivante. Comme disait Karl, s'il ne perçoit pas en tant que sociologue ce soulèvement, moi j'ai peur. Parce que ce qui se dit dans le quartier, parmi les populations, il y a une psychose qui est là. Et je tiens par devers moi la déclaration des femmes qui ont fait le tour pour essayer de parler par rapport à la feuille de route de l'Union africaine. Parce que quand vous, les hommes, vous gâchez toujours et ce sont les femmes qui doivent être là pour arranger. Les femmes ont fait le tour des provinces, 8 provinces, pour essayer de parler. La préoccupation des femmes, parce que l'histoire de la destitution du PAN a fait tache d'huile. Hein? Depuis, sur les ondes, on ne fait que parler de ça, parler de ça. Alors comment voulez-vous que le centrafricain reste tranquille, alors qu'il y a des problèmes importants à régler au sein de la population qu'on n'arrive pas à trancher, mais ce sont des intérêts égoïstes. On se bat pour des intérêts égoïstes. Ça, on le sait, c'est au vu et au su de tous. On le sait.
Un petit élément sur cette question de nomination pléthorique, clanique, tout ça. Je vais vous dire une chose et je mets quiconque à défi. Vous arrivez au cabinet du président de l'Assemblée nationale, vous allez trouver RDC. Vous allez trouver société civile, tout le monde. Je vous le dis, MLPC, KNK, tout ça. Le président Mekassoua, il travaille avec tout le monde. Chargé de mission en matière de ceci, il cherche des compétences. Ça, c'est un critère objectif. C'est-à-dire, on nomme pas quelqu'un parce qu'il est de mon ethnie ou bien parce qu'il est de ma religion, ainsi de suite. On nomme quelqu'un sur la base de compétences. C'est ce que j'aimerais relever.
Rajouter. Merci à vous, docteur Yaliki. Je reste avec vous pendant que vous avez la parole. Hein. Oui. Quel pourrait justement être l'impact de la destitution du PAN sur la vie de la population, au cas où on en arrivait là?
La question que vous me posez me pousse à répondre en tant qu'enseignant-chercheur.
Allez-y,
s'il comme vous plaît. Si vous me demandez mon avis. Et je vais parler en tant qu'enseignant-chercheur, pas en tant que chargé de mission. Je dis ceci. Une éventuelle destitution du président de l'Assemblée nationale est techniquement impossible et politiquement catastrophique. Je m'explique. Quand je dis techniquement impossible, au sens du droit. Parce que vous et moi, on a lu les dispositions de l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On s'est rendu compte que les griefs soulevés ne correspondent pas aux motifs de destitution qui existent dans cet article 12. Donc techniquement, c'est pas possible. Et politiquement
catastrophique,
ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de compréhension comme vous et moi. Et la RCA vient de loin. On continue de connaître cette crise-là parce qu'on bafoue le droit. On dit, bon, le droit c'est ça, mais on fait autre chose. Vous allez voir que les grandes démocraties, les grands pays aujourd'hui, c'est des pays qui respectent l'état de droit. Ça veut dire que pour éviter à ce que chacun fasse ce qu'il veut, on essaie de fixer des règles. Et ces règles-là vont s'imposer à tout le monde. Et en bafouant ces règles-là, on va bafouer toute une vie de la population. Donc, nous sommes dans un processus.
Est-ce que c'est le cas vraiment? Le fait seulement de sauter la tête de l'institution, en quoi cela pourrait amener un basculement de toute une vie de la population?
Non. En fait, je vais vous dire une chose. Je l'ai dit, je ne m'oppose pas. Je ne dis pas que la procédure qui a été déclenchée est anormale. Non, c'est l'exercice de la démocratie. Je le respecte. Seulement, comme un bon nombre de Centrafricains, j'ai vu la société civile s'est prononcée, les artistes se sont prononcés, certains partis politiques se sont prononcés. Je vais vous dire une chose, vous savez, si on essaie de voir cette demande de pétition, il y a certains députés qui ne se reconnaissent pas dans l'écriture. Il y a des déclarations qui ont été faites. Je ne me reconnais pas. Je n'ai pas signé. Alors, quel est le mobile d'imiter la signature? Et ça sera aussi un autre cas. Vous voyez, tout a été prévu par le règlement intérieur, hein, qui reprécise certaines dispositions relatives à l'Assemblée nationale qui figurent dans la Constitution. Tout a été prévu. Rien n'échappe au règlement intérieur. Et donc, dans ce cas-là, des dispositions aussi ont été prévues dans ce règlement intérieur. Ça, j'invite tous les compatriotes, j'invite l'opinion nationale, l'opinion internationale, j'invite tout le monde à s'acquérir, à lire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Extrêmement important, chers compatriotes, lisons le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour comprendre ce qui se passe en ce moment.
Merci à vous, docteur Anouyaliki. Il y a M. Daniel Nzewe qui vient de nous rejoindre au studio. Il va donc ainsi prendre le train en marche. Nous abordons justement de la problématique de la destitution du président de l'Assemblée nationale. Alors pour nous, est-ce qu'il s'agit là d'une crise institutionnelle ou d'un simple exercice normal de démocratie? Bonjour et bienvenue à ce débat.
Je m'excuse, j'ai fait un tour à l'hôpital, mais compte tenu du caractère sacré de ce débat, je me suis vu dans l'obligation de me faire violence pour être là afin d'échanger avec mes compatriotes sur la problématique de la destitution du président de l'Assemblée nationale.
En tout cas, merci d'être venu.
A priori, le législateur centrafricain a prévu la destitution du président de l'Assemblée nationale. Les textes sont clairs. L'article 70 de la Constitution dispose: le président de l'Assemblée nationale peut faire l'objet de procédures de destitution pour manquement au devoir de sa charge sur demande motivée du un tiers des députés. Au jour d'aujourd'hui, si 45 députés conformément aux 140 que nous comptions aujourd'hui décident...
Et 95
Je dis tout simplement aujourd'hui un tiers. Ouais, c'est-à-dire logiquement, si on avait seulement 45 signatures, la procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale est légalement enclenchée. On est allé au-delà des 45 signatures, on est arrivé à 95 ou 97 signatures entre guillemets. Et aujourd'hui, ça fait 95, ça fait les deux tiers de l'Assemblée nationale, parce que pour la décision du président de l'Assemblée nationale, il faut 94 voix. Si 94 députés décident et votent pour la destitution du président de l'Assemblée nationale, cela devra se faire automatiquement. Ce n'est pas nouveau en République centrafricaine. En 1960, les Adama Tambouk, Séo Toussa ont fait l'objet de ce genre de procédure de destitution. Il faut connaître l'histoire de son pays. Ce n'est pas seulement à la République centrafricaine que cette situation est inédite. Non, faux. Maintenant, l'article 70 de la Constitution l'a prévu. Lisez bien l'article 70. Le président de l'Assemblée nationale peut faire l'objet de procédures de destitution pour manquement au devoir de sa charge sur demande motivée de un tiers des députés. Ça, c'est la loi fondamentale, la Constitution. Maintenant, c'est repris dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à l'article 12. Et l'article 12 récupère cet article 70 de la Constitution, compresse et ramène à trois manquements.
Ça ne compresse pas.
Je vous en prie, monsieur Yaliki, je vous en prie. Je dis et je pèse mes mots que les dispositions de l'article 12 en comprimé ont fait une restriction des dispositions de l'article 70 de la Constitution, qui est la loi fondamentale, à trois points précis. Le premier point, si le PAN s'oppose de quelque manière que ce soit à ce que le bureau de l'Assemblée nationale rende compte aux députés de ses activités et de sa gestion conformément à l'article 130 de la présente loi organique portant règlement intérieur de la dite institution. Deuxième point.
Nous avons déjà fait lecture de cette disposition.
Voilà,
maintenant, la question tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, Dr. Réali qui a relevé le fait que ces griefs-là ne correspondent pas
les griefs correspondent bel et bien. Je démontre comment les griefs correspondent bel et bien.
Allez-y, s'il vous plaît.
Les griefs correspondent bel et bien. Je vais vous lire ceci. Du point de vue de la hiérarchie des normes juridiques, ça, on parle de la Constitution. Je vous lis la correspondance même de destitution du PAN. C'est ce que j'ai sous les yeux. Qu'est-ce qui se passe? En effet, courant 2016, il y a eu ce qu'on appelle des rapports, n'est-ce pas, d'audit. Et il y a eu ce qu'on appelle le rapport également de la Cour des comptes qui était intervenu au sein de l'Assemblée nationale. Ce rapport de la Cour des comptes et ce rapport d'audit qui ont été transmis régulièrement au président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a préféré faire obstruction de ces deux rapports. Le fait de faire obstruction de ces deux rapports, ça veut dire tout simplement qu'a priori, il a refusé, il a fait obstruction, il n'a pas eu affaire à rendre compte, n'est-ce pas, à ses pairs du bureau. De facto, le fait de ne pas rendre compte de ces deux rapports à ses pairs du bureau, cela entraîne et fausse les données parce que chaque année, il faudrait absolument que l'Assemblée nationale puisse présenter son rapport d'activité. Cela veut dire tout simplement que ce rapport de la Cour des comptes et ce rapport d'audit n'ont pas été transcrits fidèlement dans le rapport d'activité de l'Assemblée nationale. Ça fait partie des griefs 1, ça fait partie du grief 2. Les griefs 1 et 2 sont bel et bien relevés. Et à partir de ce moment, en dehors de ces deux griefs qui sont relevés, les députés se sont référés à la loi fondamentale qui se trouve être la Constitution aux dispositions de l'article 70, qui éventuellement, cet article est beaucoup plus élargi, pour faire appel à d'autres griefs et tout ça par rapport à l'attitude du président de l'Assemblée nationale. Nonobstant le fait que nous avons déjà deux griefs qui sont bel et bien retenus. À partir de ce moment, si le législateur l'a prévu, mais laissons l'exercice démocratique se faire en toute liberté.
Personne ne s'y oppose, justement.
Voilà.
Merci. Alors, merci à vous, merci. Monsieur Nzewe.
J'aimerais rebondir très rapidement sur ce que Monsieur Nzewe vient de dire. Première observation, il a dit que l'article 12 du règlement intérieur a fait restriction des dispositions de l'article 70 de la Constitution. Je pense que sur le plan du... C'est vraiment une aberration que vous affirmez et je vais vous expliquer. La Constitution, c'est une norme suprême, c'est une loi fondamentale. Et donc, la Constitution fixe des grands principes et ces grands principes sont reprécisés par les lois organiques. Ces grands principes sont reprécisés par les décrets d'application, ainsi de suite. Donc, vous avez dit le contraire de ce qui devrait exister. Donc, la Constitution a fixé des règles générales, maintenant à renvoyer expressément
alors,
à une
si
loi
vous permettez, docteur Yalik,
pour
au-delà
pouvoir
donc,
repréciser,
de ces, s'il vous plaît.
Encore d'une manière détaillée. Bon, je reviens
voilà,
sur la question.
Voilà, au-delà de ces principes de droit, s'il vous plaît, restons dans le sujet.
Deux choses. Monsieur Daniel Nzewe a dit que le président de l'Assemblée nationale a fait rétention du rapport de la Cour de comptes de 2016.
Un rapport d'audit et
de compte. La Cour de compte n'a pas rendu un rapport jusque-là. Et j'ai posé une question tout à l'heure. Le président Mekassoua a saisi la Cour des comptes, lui demandant d'enquêter sur la gestion de la 6e législature et de rendre une conclusion. L'enjeu juridique, c'est quoi? C'est que, au regard des éléments que la Cour des comptes aura, la Cour des comptes peut décider directement de saisir le procureur de la République. C'est l'enjeu juridique. Et j'ai posé une question qui, jusque-là, demeure sans réponse. Pourquoi, avant la conclusion de la Cour des comptes, qui a été installée au sein même de l'Assemblée nationale, on veut coûte que coûte de faire partir Mekassoua. Qu'est-ce que les gens se reprochent? C'est une question que je pose. Les dispositions de l'article 12 sont des dispositions qui sont précises. Ça veut dire qu'on ne peut pas ajouter d'autres choses aux trois cas de manquement prévus. Alors, je pose une question. Est-ce que le rapport d'audit est un rapport de la commission ad hoc ou bien commission spéciale prévu par l'article 12? Non. L'article 12 n'a parlé de deux cas de rapport. Le rapport de la commission spéciale et le rapport ad hoc. Point barre. Deux cas seulement où on fait rétention.
C'est trop grave, Hippolyte. En ce qui concerne la hiérarchie des normes, je ne suis pas juriste, mais je peux prétendre aujourd'hui revenir avec le peu de logique, le dire. Du point de vue de la hiérarchie des normes, lorsque vous avez une loi organique, vous avez la loi fondamentale. À partir du moment où vous avez la loi organique et la loi fondamentale, qu'est-ce qui prime?
C'est la Constitution.
Mais la Constitution, c'est la loi fondamentale.
C'est la loi fondamentale.
C'est-à-dire, c'est l'article 70 de la Constitution qui prime sur les dispositions de l'article 12.
Absolument.
Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Vous êtes juriste. Au fait, la hiérarchie des normes aurait souhaité qu'on puisse... Non, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde.
Bien
à
sûr.
Partir de ce moment, les dispositions de l'article 70 de la Constitution, éventuellement, qui prévoit tout simplement ce que nous venons de lire, devra s'appliquer dans toute sa rigueur. Maintenant, les députés ont regardé les dispositions de l'article 12. Pour ne pas se perdre et aller dans la Constitution, il y a une loi organique qui est mise en place. À partir de ce moment, ils ont regardé les dispositions de l'article 12 et éventuellement, les conditions évoquées satisfont les dispositions de l'article 12. Maintenant, lorsqu'on parle d'une commission spéciale, la commission spéciale, c'est celle qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'on parle d'une commission ad hoc en tant que telle, ce n'est pas une commission qui appartient à l'Assemblée nationale, mais c'est une commission à caractère étatique qui vient de l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle de la Cour des comptes, c'est pour ça qu'on parle de l'audit, parce que ça, c'est des commissions ad hoc. Il faudrait que les gens l'apprennent du haut de ce perchoir. Maintenant, je réponds à une question précise, Hippolyte. Qui est le président de l'Assemblée nationale pour que son éviction puisse emmener ce qu'on appelle une crise dans le pays.
Justement, j'en venais, j'ai une question là à propos. Craignez-vous aussi des conséquences fâcheuses une fois que le PAN sera destitué, parce qu'on a suivi le groupe de travail de la société civile par le biais de son porte-parole pour Christian Benenga qui a demandé que cette crise n'affecte ni la stabilité des institutions, ni la stabilité économique, ni la stabilité sociale dans ce pays.
Je lui tire chapeau, a priori. La crise est déjà là, Hippolyte. Lorsque un président de l'Assemblée nationale ne s'entend pas avec ses vice-présidents, lorsque le président de l'Assemblée nationale est en distension par-ci par-là, lorsque il y a une mésentente à la tête et de l'exécutif et du législatif, à partir de ce moment, on parle d'une crise. La crise est là. Maintenant, les instruments juridiques servent éventuellement à la résolution de la crise qui est déjà là. La crise est là. Au sein de l'institution qui se trouve être l'Assemblée nationale. Maintenant, les instruments juridiques sont là pour réguler et corriger la crise. Et je pense que ces députés qui ont eu à porter leur signature pour éventuellement demander la destitution du président de l'Assemblée nationale sont des députés courageux et il faut absolument les applaudir. C'est un acte courageux parce qu'ils veulent absolument résoudre un problème. Mais je vais poser une question tout à fait simple et je pense que la réponse est évidente. Est-ce que tous les députés de cœur uni en signer cette pétition.
Bon,
la réponse est éventuellement oui, puisque j'ai les signatures. La réponse est oui, tous ces députés ont signé. Entre guillemets, ça nous permet éventuellement de nous projeter au-delà du débat et de considérer tout simplement qu'il y a effectivement crise. Et s'il y a effectivement crise, mais les instruments juridiques sont là et nous sommes en train de résoudre la crise. Et le deuxième aspect de la résolution de la crise éventuellement arrive.
Le deuxième élément arrive, qu'est-ce que vous insinuez?
Non, monsieur Hippolyte, si tous les députés de cœur uni ont signé ce document, d'ici le 26, ils vont aller aux élections, de l'éviction du président de l'Assemblée nationale. Alors, si par hasard, l'élection de l'éviction du président de l'Assemblée nationale ne devait pas éventuellement aboutir, mais le chef de l'État a encore un autre instrument juridique éventuellement pour pouvoir corriger de manière très efficace qu'on puisse avoir la paix de manière définitive, qui est la dissolution de l'Assemblée nationale.
Merci, monsieur Daniel Zewé. Est-ce qu'on pourra en arriver là, monsieur Carlo Blagué, en arriver à la dissolution de l'Assemblée nationale? Pensez-vous que cette possibilité est-elle envisageable?
Non, pas du tout, Hippolyte. Je suis d'accord, je suis d'avis avec la petite analyse de Daniel Zewé. Mais d'une manière globale, je ne pense pas que le chef d'État puisse prendre le risque de dissoudre le Parlement. Je ne suis pas sûr que ce soit en sa faveur. Chef de l'État ne pourra pas prendre le risque de dissoudre le Parlement. Le moment n'est pas opportun. Je pense qu'il va falloir extrapoler toutes ces petites divergences, toutes ces petites querelles et les discussions au niveau institutionnel. Non, je pense qu'il va falloir avoir la stabilité. Le chef de l'État a besoin d'une stabilité. Déjà au niveau du DDR, c'est pas encore ça. Le pays n'est pas encore sécurisé. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Il y a l'initiative de l'Union africaine. Donc, ce genre de petite querelle-là, franchement, ça perturbe la dynamique du chef de l'État.
Alors, vous, au niveau de la société civile, Madame Chantal Toabena, au cas où la crise perdure, au cas où cette guéguerre ne s'arrête pas, est-ce que vous, société civile, vous pouvez demander au chef de l'État d'en arriver là, de décider carrément l'actuelle législature?
Non, moi, je pense que pour mon humble avis, je ne vais pas demander au chef de l'État de dissoudre ou de faire quoi que ce soit. Ah. Voilà, nous avons une position claire. La position claire, c'est trouver une solution pacifique. Le droit, la constitution est fait par des hommes. Je vous ai posé la question, je dis, c'est une élection de sortie de crise. Alors, vous convenez avec moi, hein? Si on doit vraiment appliquer la constitution, vous pensez que tous les hommes, les députés qui sont à l'Assemblée devraient être là?
Alors, mais quand vous dites qu'il faut trouver une solution pacifique...
Une solution pacifique.
Alors, je vous ai dit aujourd'hui, il n'y a qu'un choix à faire, soit destituer Mikasa ou le garder. C'est quoi la solution pacifique?
Moi, de toutes les manières, comme on le dit, à tout problème, une solution. Ouais. Une solution pacifique. Pacifique veut dire ce problème-là peut se régler d'une manière ou d'une autre. Ça peut se régler. Moi, je suis apolitique.
Bien sûr, nous
que
l'attendons.
Que le président de la République soit destitué, que le président de l'Assemblée soit destitué, le pays doit survivre. Pour moi, je viens relayer la voix de la population. La déclaration des femmes.
La population veut seulement la paix.
La population veut la paix. La population a peur des en dessous de cette destitution. Voilà ce que je vais vous dire.
Alors,
vous ici,
Madame, je rebondis tout de suite pour vous dire qu'il n'y aura absolument rien. C'est des instruments juridiques qui sont utilisés pour éventuellement réguler la vie d'une institution. Et ceux qui sont en train de proliférer, la population avec des déclarations du type « Mais qu'elle soit destituée, il y aura trouble » et tout ça, c'est ceux-là qui sont atteints de la psychose, des événements que nous avons connus. Aujourd'hui, ça ne se produira plus jamais.
Les mesures
en tant que telles, les mesures sont prises. Nous sommes centrafricains, nous savons que des mesures coercitives existent aujourd'hui. Au fait, les résolutions des années 60, les résolutions où les gens doivent en venir aux muscles, aux armes pour résoudre les problèmes, où tout ça n'existe plus. Il y a de cela peut-être 3 mois en arrière, ça n'existe plus. Vous osez ? Vous avez les FACA qui sont suffisamment formés et les Russes qui sont là, vous les avez devant vous. Nous avons des bases suffisamment dans le pays, même à Amdafok et tout ça. Notre frontière avec le Tchad aujourd'hui n'est pas poreuse. Personne ne peut rentrer du côté Tchad sans trafic. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre des plumes de bêtes. Donc moi, je n'ai pas peur. Le centrafricain ne doit pas avoir peur. Il faudrait que les instruments juridiques s'expriment dans toute leur vigueur.
Nous sommes préparés au temps. Justement, il y a cette question, Dr Yaliki. Tout à l'heure, on a suivi M. Nzewe qui a dit que le vote de la déchéance est prévu pour le 26, c'est-à-dire le vendredi prochain. Le vote en plénière serait convoqué pour vendredi, c'est-à-dire en fin de semaine. Alors, pourquoi un renvoi si long alors que le règlement intérieur parle d'une priorité, c'est-à-dire au jour suivant, quand la conférence de présidents prend acte de la motion de destitution, aussitôt la plénière, le premier jour qui suit, on doit aller en plénière et procéder au vote. N'est-ce pas une violation des textes statutaires par la conférence des présidents?
Parler de violation, vous savez, c'est un fait, ce qui est arrivé. La conférence de présidents a décidé de renvoyer l'affaire la semaine prochaine. Attendons voir ce qui va advenir. La procédure est déjà lancée, on attend, on va voir.
Mais déjà sur la base des textes, qu'est-ce que les gens veulent faire pendant cette période-là? Pourquoi renvoyer cela vraiment en fin de semaine alors que ce n'est pas ce que disent les textes?
S'ils ont renvoyé, certainement ça veut dire qu'il y a une raison.
Donc, au-delà des textes?
Pas au-delà des textes.
Je rebondis dessus, je ne pense pas que c'est au-delà des textes. Juste, les textes sont clairs. Hein. Au fait, la plénière suivante... Éventuellement, je pense à mon humble avis que la plénière suivante, c'est celle du vendredi. Parce que tout le monde est dans les commissions actuellement. Les gens travaillent en commission. Au cas où il devait y avoir une plénière, je m'en doute fort bien. Parce que c'est la plénière aussitôt qui suit. Donc le vendredi, ils ont décidé, la conférence de présidents a acté. Et ils ont dit, bon, la plénière suivante, c'est le vendredi. Alors la plénière suivante, c'est le vendredi. Cela n'exclut pas le fait qu'il y a des opérations « hibou », entre guillemets, il faut se le dire, pour chercher à résoudre la crise d'une manière ou d'une autre. Et je dirais également que, puisque c'est reporté à la plénière suivante, les textes disent également, logiquement, si le vendredi prochain, aussitôt, destitution est prononcée, ça veut dire que 3 jours après, il doit y avoir élection du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le lundi. Le lundi 29, nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale. Mais si destitution n'est pas prononcée, ça veut dire que Mekassoua reste dans la plénitude de son pouvoir en tant que président de l'Assemblée nationale et nous lui tirons notre révérence. Et la République continue.
Merci à vous, M. Daniel Zewé. Nous allons ainsi faire le dernier tour de table aujourd'hui. Quelle leçon tirée de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Madame Chantal Toabena?
La leçon à tirer, je voudrais... Dire simplement à mes frères et mes sœurs au niveau de l'Assemblée nationale que ce sont nos représentants. Les conflits sont naturels et normaux. Mais quand il y a des conflits, il faut savoir comment gérer ces conflits. Mais vous voyez, quand je disais que la population a peur, tellement que ça fait des remous, c'est parti comme une traînée de poudre, ça fait des problèmes que finalement c'est devenu une psychose au niveau de la population.
Absolument.
Et ce n'est que normal. Alors nous disons que eux là-bas, ils sont là pour nous représenter. Est-ce qu'ils ont fait le tour? Puisqu'ils sont là pour représenter la population, est-ce qu'ils ont fait le tour pour dire à la population,
exactement,
voilà, je suis député de 2e arrondissement, je viens vous informer, je vous représente au niveau de l'Assemblée, voilà ce qui se passe. Mais voilà les dispositions, il faudrait qu'ils nous rendent compte aussi, mais ils prennent des décisions. Moi, je ne défends personne. La première fois que j'ai serré les mains de Mekassoua, c'est quand les femmes ont écrit cette déclaration et que je faisais partie de cette délégation pour aller remettre cette déclaration. On a fait le tour, on a donné au médiateur, on a été voir la Cour constitutionnelle, on a été voir le président de l'Assemblée et maintenant on attend d'être reçu par le président de la République. Nous faisons ce plaidoyer c'est le président de la République que je vais avoir l'occasion de saluer également.
Bien sûr.
Mais nous voulons la paix parce qu'après tout ça, Vous allez fuir, prenez votre billet d'avion pour partir, protéger vos familles, mais au détriment de la population dans l'arrière-pays qui meurt de faim. Et ils sont là en train de se quereller. Je veux bien lisez le droit, appliquez les tests. Mais je dis, les tests sont faits par des hommes et il faut toujours prendre du recul et avoir la tête froide pour voir les tenants et les aboutissants. Mais si les uns et les autres me rassurent qu'il n'y aura rien, allons-y.
Il n'y aura rien. Merci à vous, Madame Chantal Tobena, Monsieur Carlo Blaguet. Quel leçon tirer donc de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale?
D'abord, Hippolyte, il n'y a pas de psychose. Ça, c'est le fonctionnement régulier des institutions. Que le président de l'Assemblée nationale soit destitué ou pas, c'est le fonctionnement normal et régulier des institutions de la République. Il ne faut pas faire monter les enchères. Je vous avais dit ça tout à l'heure. Il n'y aura rien, même si le président de l'Assemblée est destitué ou non, il n'y aura pas de trouble. Le chef de l'État est en train de se focaliser. Il doit se focaliser sur sa déclaration lors de sa prestation de serment. Il y a le DDR. Pour l'instant, le DDR n'est pas encore à 40%. Il y a certaines régions dans l'arrière-pays encore secouées par les terroristes. Je ne parle pas de politico-militaires, par les terroristes. Il y a l'initiative de l'Union africaine que nous attendons. Nous espérons que ça ne sera pas un nouveau rendez-vous manqué. Donc je pense qu'il ne faut pas perturber le chef de l'État à travers des guerres de personnes, des querelles de personnes inutiles pour le fonctionnement des institutions de la République.
Il quitte juste le perchoir, mais il garde sa place parmi les 140.
Bien sûr, il est député.
Sa voix continuera de porter.
Exactement.
Pour la cause de son peuple.
Absolument.
Oui, monsieur Nzéwe,
oui, la leçon tire. Je voudrais tout simplement que les sentiers bâtis, n'est-ce pas, de la paix puissent être respectés. Aujourd'hui, le fait de dire tout simplement que relever Mekassoa du perchoir de l'Assemblée nationale veut dire qu'il y a trouble, ça veut dire tout simplement que nous collons une étiquette à Mekassoa comme étant auteur intellectuel de certaines manifestations ou de certains crimes. Or, il se trouve que cela peut-être n'en est pas le cas et j'aurais souhaité ne pas croire en cela. Juste parce que j'ai vraiment du respect pour M. Mekassoa, de l'avoir pratiqué. Mais nous sommes dans ce qu'on appelle la dynamique de la démocratie et il faut accepter les contradictions. Lorsque la chose vous quitte, il faut accepter de quitter la chose le plus rapidement. C'est important.
C'est donc un message de sagesse.
J'exhorte le peuple.
Merci.
J'exhorte le peuple à rester calme, il n'y aura rien.
Merci à vous, M. Daniel Zoué. Nous terminons avec vous, Dr. Arnaud Yaliki. Voilà, quelle leçon tirer de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale?
Je pense que la procédure de destitution, elle est prévue par la Constitution, elle est reprécisée par le règlement intérieur. C'est l'exercice de la démocratie. On ne s'y oppose pas seulement, il faut juste que cette procédure soit respectueuse des textes. J'insiste sur cette question des textes. Vous savez, il est important que nous respections le droit. Si on respecte le droit, tout ce que nous avons vécu et nous continuons de vivre, on aurait évité ça. Donc, il faut vraiment respecter le droit, ce qui a été prévu. Donc, vraiment, il faut que cette procédure, j'insiste, soit respectueuse de ce qui a été prévu pour éviter toute incompréhension. Et donc, la RCA vient de loin. J'invite les élus de la nation, comme a dit mes co-débatteurs ici, j'invite les élus de la nation au bon sens, à prioriser l'intérêt national. Nous avons tout perdu. On n'a que la RCA aujourd'hui. C'est ce message que j'ai à lancer à l'endroit de tous les élus de la nation.
Et tous les acteurs, concernés par cette question. Merci à vous, Dr. Arnaud Yaliki. Merci à vous, M. Daniel Zewé. Merci à vous, Mme Chantal Tobena. Merci, Carlo Blaguet. Fin de ce débat Patera sur Radio Ndekeluka, qui, je le rappelle, a été consacré à la problématique de la destitution du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il s'agit d'une crise institutionnelle ou juste un exercice normal de démocratie? Guy Rémy Yamendi à la technique, Hippolyte Marbois à l'animation, vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une autre thématique.